Ils défendent nos droits.
À la tête d'une institution indépendante de l'État, le défenseur des droits, aujourd'hui Jacques Toubon, a des délégués au plus près des territoires. Ceux de Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient réunis dernièrement à Manosque en présence de Benoît Normand, qui dirige le réseau territorial, et de la chef de pôle régional Yolande Eskenazi. Venus de toute la région, Marseille, Avignon, Gap, etc., les délégués ont échangé sur leurs pratiques et leurs besoins, et ils ont aussi distingué Daniel Firobe, anciennement en poste à Manosque et qui a passé le relais à Gérard de Mester. Outre défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés, leur mission est également de favoriser l'accès aux droits pour tous. Écoute, pédagogie et médiation sont leur lot quotidien et les délégués, par leur statut, ont l'oreille de l'administration ou de tout organisme auquel les citoyens sont parfois opposés. Je vous propose d'écouter Yolande Eskenazi rappeler les missions de cette institution, puis Maurice Boyer, qui est délégué à Digne-les-Bains. Yolande Eskenazi, vous avez animé une réunion ici même à Manosque avec les délégués du Défenseur des droits. Qui est le Défenseur des droits et à quoi sert-il ?
Le Défenseur des droits, il y en a 15, c'est Monsieur Jacques Toubon. Jusqu'en juillet prochain 2020. Mais derrière Jacques Toubon, heureusement, il a une équipe, des agents de 150 à peu près, et il a surtout les délégués, qui sont présents aujourd'hui pour une partie, qui sont des bénévoles et qui sont, c'est eux qui, sur le terrain, accueillent les personnes qui veulent nous saisir et essayent de résoudre au mieux les problèmes qu'ils rencontrent.
Quel est son rôle et quelles sont ses missions ?
Le défenseur des droits, il est chargé de veiller au respect des droits et libertés. Alors très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, en tant que citoyen, en tant qu'usager d'un service public, on rencontre des difficultés par rapport à ce service public, des dysfonctionnements, l'administration reste sourde, silencieuse, elle n'a pas bien appliqué la règle, après des premières démarches, on peut aller voir un délégué. Si on est victime de discrimination, par exemple, ou témoin, si les droits de l'enfant ne sont pas respectés, s'il y a un manquement à la déontologie des professionnels de la sécurité, ce sont aussi d'autres sujets pour lesquels on peut aller voir le délégué ou saisir au niveau national le défenseur des droits. Pareil, depuis 2016, on a une autre compétence, une cinquième compétence. On informe et on oriente les lanceurs d'alerte.
Vous avez évoqué ici même plusieurs actions que vous menez avec les délégués du défenseur des droits, et notamment une action assez surprenante en ce qui concerne les amendes de stationnement, où là, les droits ne sont pas respectés.
Aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, depuis l'an dernier, nous voyons de plus en plus de difficultés qui nous remontent au sujet de ce qu'on appelle le droit routier et des forfaits post-stationnement. C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple, vous avez ce qu'on appelait avant des contraventions sur la voie publique, maintenant c'est géré par des collectivités. Il est vrai que, à l'heure de la dématérialisation, quand en plus on rajoute des procédures qui sont complexes, qui sont parfois illisibles, parfois inégalitaires, parce que, par exemple, on parlait des forfaits post-stationnement, selon la collectivité et le lieu où vous vous trouvez, les règles sont pas et les tarifications sont pas les mêmes. Quand vous mettez à la fois la complexité de ces procédures Kafka et la dématérialisation, l'ère du numérique, l'un et l'autre, et ben ça crée des vrais soucis pour nos concitoyens qui, si je le dis très simplement, ne s'y retrouvent plus et ne savent plus à qui s'adresser et comment faire valoir leurs droits. C'est un sujet sur lequel nous nous mobilisons. Localement, on peut aller voir un délégué du défenseur des droits pour faire le point sur la situation. Et puis, au niveau national, le défenseur des droits s'en saisit parce que, dans bien des cas, c'est la réglementation elle-même qu'il faut faire évoluer et c'est l'information qu'on donne aux gens qu'il faut améliorer.
Vous avez également rendu hommage dans votre réunion à une ancienne préfète des Alpes-de-Haute-Provence, Yvette Mathieu, qui nous a quittés récemment.
Oui, alors là, si vous permettez, Madame Mathieu, Yvette, je vais l'appeler Yvette, c'était pour vous une ancienne préfète, c'était pour nous et c'était pour moi une collègue. Puisqu'elle avait intégré en 2012 le défenseur des droits, elle était le faire-valoir de toutes les causes que nous défendons aussi au niveau de l'outre-mer, puisqu'elle travaillait sur la mission du respect des droits, notamment sur Mayotte, mais pas exclusivement, sur les dom-tom. Et c'est vrai que ça a été une grande tristesse pour nous d'apprendre son décès.
À vos côtés, un des défenseurs des droits et qui travaille sur le 04, Maurice Boyer. Votre travail au quotidien, c'est quoi ?
Alors, je suis là en tant que délégué, bien sûr, avec mon collègue et ami Gérard de Mester. Nous avons un chardon de recevoir les gens qui rencontrent des difficultés, soit avec l'administration, soit avec des problèmes de discrimination, soit des problèmes du droit des enfants, et également sur les problèmes, comme l'a dit notre responsable régional Yolande Eskenazi, problème de protéger et éventuellement d'aider les lanceurs d'alerte. Voilà. Alors, je reçois les gens deux matinées par semaine à Digne-les-Bains, donc le mardi et le mercredi. Les gens peuvent me saisir également par téléphone, par courriel ou par courrier. Donc, je les reçois. Ensuite, bon, je contacte l'organisme qui est mis en cause éventuellement pour savoir effectivement, en tant que médiateur, puisque nous faisons toujours de la médiation tout en étant délégué du défenseur des droits, pour savoir exactement quelle est la situation. Donc, au vu de ce que me fournit comme renseignement l'organisme mis en question, je vois si la réclamation est recevable. Si elle est recevable, je la traite, parce que ça peut être un dysfonctionnement, comme ça peut se produire dans toute administration ou organisme social, de tout ce qui concerne, disons, les organismes qui sont au service du public. Si un dysfonctionnement est constaté, donc j'interviens, mais il faut que la personne, le demandeur, fasse d'abord la démarche préalable. Donc au vu de tout cela, je vois en fait si c'est recevable. Si c'est recevable, comme je vous l'ai dit, je traite le problème. Si ce n'est pas recevable, donc j'explique à la personne que l'organisme a eu raison de ne pas lui accorder telle ou telle allocation, de lui faire reverser de l'argent si c'est de l'argent des sommes qui ont été perçues à tort, et la personne, l'essentiel c'est de la recevoir, de lui expliquer. Alors je dirais pas qu'une personne à qui on dit qu'on ne peut pas donner suite à sa réclamation est satisfaite, mais en recevant les gens, en leur expliquant ce qui des fois est, en étant à l'écoute de leurs propos, donc je crois que sans être heureux, ils sont au moins satisfaits d'avoir été reconnus en tant que personne, d'avoir été reçus, et donc ils ont la connaissance de ce qu'il en est. Voilà.
On déplore souvent la déshumanisation des services administratifs ou des services de l'État. Vous parlez, vous, de Kafka, l'heure du numérique. Vous apportez, vous, de l'humain auprès de personnes qui ont des besoins, et des fois des besoins extrêmement concrets et simples.
Oui, effectivement, les personnes que nous recevons, donc en premier lieu, nous leur accordons une écoute. Le fait d'être écouté déjà fait que la personne est reconnue. Elle se sent donc une personne comme toutes les autres, sans discrimination ni rien. Les réponses sont en fonction, bien entendu, comme je vous l'ai indiqué, de la recevabilité de la réclamation. Alors, on a effectivement le sentiment que des personnes n'ont pas toujours l'écoute, là, auprès de certains organismes, peut-être par manque de personnel, peut-être par manque de motivation. Donc, je ne peux pas aujourd'hui me fixer sur une situation particulière, puisque je n'ai pas assisté donc à l'entretien ou à la réception de la personne par rapport à ces organismes.
Vous avez évoqué un cas particulier d'une personne qui avait un besoin en termes d'alimentation électrique que vous avez solutionné.
Oui, en fait, je n'ai pas solutionné ce manque, mais cette personne est venue, donc c'est une personne handicapée qui malheureusement a des faibles ressources, qui a eu une aide suspendue parce que au cours de l'année 2018, elle avait perçu un rappel de retraite, donc on lui a supprimé pendant cette période-là. Donc je suis intervenu auprès de l'organisme qui va lui rétablir pour l'année 2020 cette allocation, et cette personne-là n'était pas informée de quelque chose quand même qui est très social, c'est le tarif première nécessité. Donc, c'est-à-dire un tarif sur la consommation électrique juste adapté aux besoins des personnes aux faibles ressources. Donc, je l'ai incité à contacter la caisse primaire d'assurance maladie afin que cet organisme, au vu du montant des ressources de la personne, puisse intervenir auprès de l'EDF.